Bienvenue dans Présage sur le vif, des épisodes courts sur ce que révèle la crise sanitaire et ce qu'elle présage. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Jade Lingard, journaliste chez Mediapart. Salut Jade.
Salut Alexia.
Merci de prendre ce petit moment avec moi pour partager tes réflexions et tes questionnements. D'abord, comment ça va ? Comment tu vis ce moment et est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu te questionnes particulièrement ?
Écoute, déjà, je suis contente de te parler parce que c'est vrai que dans un moment de confinement comme celui-là, c'est très important, je trouve, encore plus que d'habitude, de pouvoir échanger avec les personnes qu'on apprécie, qu'on suit, avec qui on est en conversation. Moi, à titre personnel, tu vois, je vais très bien. Je suis dans mon appartement à Aubervilliers avec ma fille. Et nous, on est logés dans des conditions tout à fait confortables. Mais évidemment, ça devient difficile, en fait, je trouve, aujourd'hui, de répondre uniquement pour soi, comment je vais, comment tu vas, parce que moi, le quartier où j'habite, il est quand même peuplé de personnes qui vivent dans des conditions de logement beaucoup plus dégradées que les miennes et qui sont confrontées à toute la violence, en fait, du contrôle social et policier du confinement. Et par exemple, pas plus tard qu'hier encore, la ville d'Aubervilliers était en couvre-feu, par exemple.
Ah bon?
À partir de 20h, alors le qui avait été décidé par la mairie d'Aubervilliers en début de semaine, mais qui vient d'être annulé par la préfecture. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais pour te donner un exemple le dispositif de coercition quand même est très fort.
Justement, peut-être on peut commencer par ça. En fait, on a pas mal entendu que ce virus, il touchait tout le monde à égalité, aussi bien les riches que les pauvres. Or, on s'aperçoit quand même assez rapidement que le virus touche pas du tout de la même façon toutes les classes sociales et que ça révèle aussi les inégalités d'une façon encore plus criante, notamment dans le confinement qui est imposé aux personnes et où les gens qui sont aussi obligés de continuer à travailler dans des conditions complètement dégradées.
Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais, oui, je pense que c'est vraiment... C'est bien sûr que la situation de confinement, elle est difficile à vivre parce que c'est une énorme contrainte dans la vie de tout le monde, mais c'est tellement violent d'observer à quel point les inégalités nous reviennent en pleine face. Et moi, je dirais même presque des nouvelles inégalités quoi, qui apparaissent et qui sont des inégalités auxquelles, moi, très franchement, en France, je n'avais jamais pensé. C'est-à-dire que l'inégalité entre ceux qui peuvent travailler protégés chez eux comme moi, qui peuvent télétravailler sans prendre de risques, et ceux qui ne peuvent pas télétravailler et qui sont obligés de continuer à travailler, de s'exposer à des conditions toxiques, ça c'est quand même une inégalité, je dirais, qui touche à des questions mais fondamentales quoi, de santé, je trouve très violente. Et de la même manière, l'inégalité face au confinement entre ceux qui peuvent quand même vivre un quotidien à peu près confortable dans leur logement et ceux pour qui, notamment des familles nombreuses avec des enfants petits, qui vivent soit dans des tout petits logements, soit dans des logements où il y a des punaises de lit, des cafards et toutes ces formes de pollution intérieure qu'on trouve beaucoup dans les quartiers populaires. Pour eux, cette inégalité-là, elle est terrible. Alors, voilà, et bien sûr, le mal-logement, on le connaît, mais c'est vrai que là, d'un coup, je trouve que cette question du mal-logement, elle s'incarne dans des choses qui sont beaucoup plus concrètes. Et de ce point de vue-là, tu vois, peut-être que ça va te choquer, mais pour le coup, moi, j'étais très gênée par les appels à un moment sans arrêt, par exemple sur Twitter et sur les réseaux sociaux, à rester chez vous, rester chez vous, rester chez vous. Qui était une demande sanitaire, enfin qui partait d'un très bon sentiment et d'une très bonne intention. Il faut rester chez soi pour ne pas propager le virus, mais se rester chez vous, je trouve, il est hyper situé socialement, quoi, parce qu'il y a plein de gens pour qui rester chez soi, en fait, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Et je parle même pas des personnes qui sont à la rue, évidemment. Et donc je trouve que d'emblée, en fait, on est parti dans cette crise sanitaire, en fait, dans cette catastrophe sanitaire, avec des grandes inégalités et puis je trouve globalement un manque d'attention en fait aux inégalités face aux conditions créées par ce désastre du Covid-19. Et je dis ça, c'est facile à dire, hein. Aurait-il fallu faire, enfin voilà, j'ai pas, mais je suis quand même très très marquée politiquement par cette expérience-là.
Il y a aussi quelque chose. En fait, on est tellement justement dans cette urgence de la catastrophe que cette gestion aussi autoritaire de la crise qui s'est mise en place, on a l'impression on n'a pas le droit ou qu'on ne peut pas la questionner. C'est même pas la contester, mais au moins la questionner. Et enfin, en plus, avec toute cette rhétorique très guerrière qui justifie des mesures. Qui ont l'air quand même assez antidémocratiques. Enfin, c'est une sorte de maelstrom là, assez pénible, je trouve.
Mais qui est très, moi, je trouve, enfin, qui à la fois est la marque d'une très faible culture démocratique, en réalité, je trouve, dans notre société, et qui, en plus, affaiblit encore davantage cette démocratie. C'est-à-dire que, bon, bah, évidemment, on voit bien la contrainte du confinement, l'imposition du couvre-feu dans certaines municipalités, les votes, les décisions plutôt, enfin, pardon, l'action gouvernementale par décret, sans délibération parlementaire, et les décisions qui viennent d'être prises pour le gouvernement. Qui touche notamment à des choses aussi fondamentales que le droit du travail, pour permettre à des employeurs d'imposer à leurs salariés de poser des congés payés lors du confinement, pour faire sauter le verrou de protection des 35 heures, tout ça sans délibération. Et bon, voilà, beaucoup de gens l'ont dit, c'est assez évident, on voit bien que là, il y a vraiment. Enfin, moi je trouve très inquiétant de voir à quel point il y a un état d'exception qui touche très très directement et très rapidement les bases, quand même les fondamentaux de notre démocratie qui sont la délibération parlementaire. Mais moi je dirais, pareil, c'est une difficulté à penser, donc j'essaie de le formuler sous la forme d'une question parce que je ne sais pas ce qu'il faudrait proposer à la place. Mais de la même manière, moi je suis, comment te dire, très aussi plus que gêné, quoi. Je pense qu'il y a un problème dans la manière dont est-ce qu'à un moment une société s'en remet à une autorité scientifique. Donc là, on a deux conseils scientifiques depuis quelques jours qui conseillent le gouvernement, un depuis le début, un plus récemment, qui sont des personnes, qui sont des chercheurs, des médecins, des personnes qu'il faut absolument qu'on puisse entendre et écouter et qui, par leur connaissance sur à la fois l'épidémiologie, l'état des hôpitaux, l'état de santé, et puis voilà, le suivi médical quoi, des patients et des patientes sont des personnes dont il faut absolument écouter le savoir. Hein. Je dis pas ça, mais ce que je trouve très problématique, c'est que on n'a pas su, depuis les quelques semaines que cette épidémie a commencé, on n'a pas su créer en fait à côté de ces instances scientifiques des je sais pas, des assemblées, en tout cas l'équivalent social quoi, sociétal. Pour d'emblée considérer que, par exemple, une décision aussi grave que la fermeture des écoles, une décision aussi grave que le confinement, et puis maintenant ce qui est en train de se passer en termes de droit du travail, ne pouvait pas se prendre uniquement éclairée par le savoir scientifique, devait se prendre éclairée par le savoir scientifique, mais tout autant par d'autres savoirs, des savoirs sociaux, des savoirs sociétaux, mais en dehors même de la question des savoirs. Enfin, je veux dire, aurait dû faire l'objet de formes de consultation et que, avec tous les outils numériques qu'on a aujourd'hui, il y avait sans doute mille manières d'organiser des formes d'assemblées, de forums, je ne sais pas moi, de conventions numériques. Enfin, et ça, on voit bien que ça n'a même pas été tenté. Et tu vois, moi, ça, enfin, voilà, comme toi, si je sens dans tes questions. Ça me préoccupe beaucoup parce que bah, si on n'est pas capable de tenir à la les fondamentaux de notre démocratie, mais en plus la nécessité absolue de décider ensemble et au plus grand nombre possible de décisions aussi graves que celles qui ont été prises et aussi coercitives, encore une fois, et ben moi je trouve ça vraiment fort inquiétant. Et tu vois, je pense par exemple à une interview d'une historienne qui vient d'être publiée sur Mediapart par mon collègue Fabien Escalona. Alors malheureusement, j'ai oublié le nom de l'historienne, et sur le fait que même pendant la Première Guerre mondiale, le Parlement français a continué à se réunir et à délibérer. Donc, c'était alors que c'était pour le coup vraiment une situation de guerre. Et donc, je pense que là-dessus, il faut absolument qu'on s'améliore, quoi, d'ici la fin du confinement.
Mais est-ce que c'est pas aussi parce que, puisque l'hôpital public était en si mauvais état qu'on n'avait pas de préparation, pas de masque, pas de test, etc., finalement, bon, peut-être qu'ils auraient pu se préparer mieux dans tous les cas, mais est-ce que le confinement, c'était pas le dernier recours, vu que tout était, enfin, il y avait rien d'autre de possible, quoi.
Non, mais effectivement, c'est-à-dire que moi, en fait, aujourd'hui, je ne sais pas si c'était la seule solution possible, mais je n'en conteste pas, comment dire, l'utilité, hein, aujourd'hui, hein. Et ça, là-dessus, je trouve que celui qui en a très bien parlé, c'est Jean-François Delfraissy, qui est membre du conseil scientifique, justement, qui conseille le gouvernement et qui était jusqu'à il y a quelques temps le président du Conseil national d'éthique. Lui, il a très bien formulé. Il a dit, en fait, le confinement, c'est une mauvaise solution, mais c'était la seule solution possible en l'absence de masques et en l'absence de tests. Et que du coup, là, logiquement, il y a eu aussi quelque chose de l'ordre du principe de précaution, en fait. Qui a nourri ce confinement, c'est puisque ça risque d'être une épidémie absolument terrible en termes de malades et de morts, donc il vaut mieux confiner tout le monde. Donc ça, je comprends tout à fait cette logique. Mais ce que je voulais dire, c'était que je trouve problématique d'en avoir pris la décision sans prendre au sérieux et sans accorder la même importance aux critères démocratiques, sociaux et d'inégalité dans la décision du confinement. Et que là, pour moi, là-dessus, il y a vraiment un défi énorme qui sont lancés à nos démocraties, mais qui en fait ressemble beaucoup au défi hein, qui est lancé par les dérèglements climatiques. Hein. Sauf que là, quelque part, c'est en hyper accéléré parce que c'est une question de santé et qu'il y a des gens qui meurent sous nos yeux. Mais en fait, ce sont des situations très proches et voilà, ça me frappe beaucoup et je pensais, mais il y a plein d'autrices et d'auteurs très importants qui ont travaillé, enfin très importants, en tout cas, qui est très fécond. Qui ont travaillé sur ces sujets, mais par exemple, quelqu'un comme la philosophe Isabelle Stengers, elle a beaucoup écrit là-dessus, sur la nécessité absolue de ne pas réduire la réalité à une vérité. Et c'est pas, il n'y a pas que la vérité scientifique, il n'y a pas que la vérité n'existe pas, il n'y a pas qu'une manière d'interpréter le monde et ce qui nous arrive. Il y a différentes manières qui sont tout aussi légitimes les unes que les autres. Et par exemple, dans le livre qu'elle vient de ressortir ces dernières semaines, qui en fait était plus ancien, Réactiver le sens commun, qui est un bouquin en fait de discussion d'un philosophe mathématicien qui s'appelle Whitehead. Et ben dans ce livre, Réactiver le sens commun, en fait, je trouve qu'elle explique très bien ce qu'elle appelle l'importance de l'imagination. Et elle prend notamment l'exemple des mouvements anti-OGM, où elle dit finalement, pour elle, ce qui a fait que les mouvements anti-OGM ont réussi en fait à bloquer le développement des OGM, bon, en tout cas en France, hein, si on prend juste l'exemple de la France, eh ben, ce qui a fait ça, c'est que il y avait d'un côté les scientifiques, les chercheurs qui avançaient sur les technologies de modification des génomes, toutes les technologies liées à la fabrication de substances génétiquement modifiées, mais que le problème de ces chercheurs qui le faisaient pour une grande part avec de très bonnes intentions, c'était qu'ils étaient dans un sillon, quoi, sur leur ligne, dans une ornière, c'est-à-dire avec une vision unique, quoi, une monovision de ce qu'ils étaient en train de faire. Et là-dessus sont arrivés des militants et des militantes et qui leur ont opposé en fait plein de problèmes. Mais combien ça va coûter, mais ça rend les paysans dépendants d'un seul groupe, le groupe Monsanto notamment. Peut-être que ça pose des problèmes de santé, ça va accélérer l'unification, l'homogénéisation des parcelles, servir l'agro-industrie. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est pas que les militants ils avaient raison contre les scientifiques, c'est pas vrai qu'ils avaient complètement tort, les scientifiques qui travaillaient sur les OGM, mais simplement, les militants, eux, en fait, ce qui faisait qu'ils étaient pas, ils n'agissaient pas en scientifique, c'est qu'eux, ils imaginaient, y compris les problèmes que pourrait poser cette technologie. Et que c'est dans cette articulation entre savoir et imagination qu'on fabrique de l'intelligence collective et c'est comme ça qu'on fait du commun. Elle, c'est ce qu'elle développe sur l'idée du sens commun, c'est que le sens commun, c'est pas que le savoir, c'est aussi l'imagination. Et en fait, il se trouve que j'ai lu ce livre peu avant le début de tout ce désastre de COVID-19 et depuis, ça m'habite parce que je me dis, je suis frappée par l'écart, en fait, voilà, entre ce que quelqu'un comme Isabelle Stenger se dit et la réalité de ce qui se met en place dans notre société.
Est-ce que tu penses que cette épidémie a des vertus écologiques? Ou est-ce que ça te semble pertinent de dire que ça pourrait être... on a beaucoup entendu ces derniers jours que ça serait une chance pour l'écologie, pour le combat, pour le réchauffement climatique.
C'est vrai qu'on en... entend. Oui, non, c'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Alors, bon, moi, j'ai quand même une prévention pour contre ce type d'argument parce qu'il faudrait faire. Enfin, moi, je ne veux pas me réjouir de l'existence d'un virus qui, quand même, tue des milliers de personnes. Enfin, je pense qu'il faut quand même faire très attention dans la manière, enfin, dans les mots qu'on utilise parce que. Bah, ceux qui meurent ou ceux qui sont très malades et gravement atteints, c'est que c'est quand même des situations vraiment terribles, donc on ne peut pas s'en réjouir en tant que tel, quoi. Mais du coup, moi, la manière dont j'aurais peut-être de le formuler, c'est de considérer que plutôt d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire politiquement, en fait, de ce qui nous arrive avec ce désastre. Et je trouve qu'une des choses, peut-être, qu'on peut essayer d'en faire, c'est de constater que, comme c'est une expérience in vivo, hyper radicale et brutale de réduction de nos consommations et de réduction de nos déplacements et de réduction très brutale de la production. Donc, c'est-à-dire toutes les grandes activités qui structurent notre économie, qui sont quasiment mises à l'arrêt, quoi, d'un coup. Et ben cette situation et cette situation-là, ben du coup, elle nous met, elle crée des conditions pour réfléchir à au final, de quoi avons-nous besoin? C'est-à-dire, au final, qu'est-ce qui nous est indispensable? Et donc, si en tant qu'écologiste et en tant que critique opposant au système capitaliste mondialisé, si on arrive en fait à profiter en fait de ce moment-là pour dire, regardez, peut-être que ensemble, on peut profiter de cette mise à l'arrêt malheureuse, douloureuse et cruelle pour re-regarder ensemble de quoi avons-nous vraiment besoin? Là, pour le coup, je trouve que ça pourrait potentiellement déboucher sur des avancées des écologistes ou en tout cas nous remettre sur la voie d'un système qui soit moins toxique, moins polluant et moins inégalitaire. En tout cas, je trouve qu'il y a un enjeu politique quoi, à travailler dans ce sens-là. Mais encore une fois, c'est facile à dire depuis chez moi, mon bureau.
Est-ce que tu crois, toi, à ce changement de vision qui pourrait advenir après et des leçons qu'on pourrait en tirer à un niveau général, hein, je veux dire pas à un niveau particulier, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui profiteront effectivement du moment pour réfléchir au sens de la vie.
Mais enfin, je sais pas comment te répondre à ça. Moi, ça me semble. Enfin, ça me semble indispensable à la fois de changer de système fondamentalement, enfin de système économique et social et politique fondamentalement. Mais ce qui me semble aussi très important, c'est que, je veux dire, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est ce désastre du Covid-19. Hein, il est le produit d'un système justement. Et ce système-là, il ne faut pas qu'il reprenne de la même manière. C'est-à-dire que ce soit ce système économique de destruction des écosystèmes, de déforestation, d'avions, d'urbanisation généralisée et d'avions que plein de gens prennent sans arrêt et qui ont contribué à propager le virus partout au point qu'on parle de métro-pandémie. C'est incroyable, je ne connaissais pas cette expression, mais pour désigner le fait que, en des endroits très différents du globe, mais quasiment de manière simultanée, une même pathologie se développe, parce que, en fait, le virus, l'agent pathogène, il est transporté et mis en circulation par tous par le trafic aérien, quoi, enfin, par les passagers, quoi, qui montent dans les avions. Ce système-là, mais aussi, enfin, je veux dire, tout aussi important, hein, le système politique néo-managérial qui, depuis 10 ans, oblige les hôpitaux publics à faire des économies, à couper sur leur budget, à, par exemple, déstocker les masques, ces fameux masques que tout le monde recherche aujourd'hui, qui étaient conservés par une même administration, par un même service administratif, mais qui a été en partie démantelé pour que, au nom justement de cette idéologie des économies budgétaires, ben moi, ce système-là, il faut pas qu'il reprenne comme il était avant. Enfin, il faut que la douleur de l'expérience qu'on est en train de vivre collectivement avec cette expérience du virus-là, il faut que cette douleur-là, elle se transforme en colère, quoi, en colère et en volonté fondamentale de changer ce système. Est-ce que ça va marcher? Moi, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais qu'il y a plein de gens qui disent ça aujourd'hui, qui l'écrivent. Il y a des premiers petits réseaux qui commencent à se constituer, des réseaux d'entraide, là, comme le réseau Covid-19, de manière à créer des formes d'auto-organisation face à ce qu'on est en train de vivre. Donc, voilà, c'est sûr que ce sera un combat politique, hein. Ça, pour moi, ce sera un des combats politiques très importants à la sortie de cette période de confinement.
Ouais, je suis d'accord. Et en même temps, je vois aussi, enfin, j'ai l'impression déjà que les plan de relance qui commence à être mis en place dans les différents grands États ont l'air de pas du tout prendre en compte cet aspect écologique et social des choses. Donc effectivement, ça sera un combat. Il faut que ça soit une révolte en fait, parce que ça viendra pas du haut quoi.
Ah, je suis d'accord avec toi, bien sûr que, là, puis on voit déjà que les... à partir du moment où c'est les mêmes ministres et les mêmes gouvernements qui sont en place, évidemment qu'eux vont vouloir reprendre la politique qui était menée auparavant. Mais là, c'est là où il va y avoir le besoin vital de bouleversement politique pour empêcher le retour à routine institutionnelle préalable. Et après, je ne sais pas à quelle forme ça prendra, combien de temps ça prendra. Enfin, je ne suis pas prophète, mais moi, ça me semble être absolument très important.
Est-ce que tu as un conseil peut-être pour les gens qui sont confinés et qui... Enfin, je ne sais pas, ce qui te passe par la tête?
l'idée comme là tu à brûle pour point l'idée qui me vient, je sais pas forcément du côté de la révolte, mais je pense à ce que m'a dit une amie qui s'appelle Barbara et qui travaille sur notamment sur le rêve et qui défend en fait la possibilité de se rencontrer en rêve et d'être en relation par les rêves, de se donner des rendez-vous dans nos rêves. Et je trouve cette idée à la fois un peu abstraite, parce que dans notre culture occidentale, on est très très loin en fait du monde immatériel, le monde invisible est quelque chose par lequel on va très peu. Mais moi, ça me paraît d'être quelque chose à la fois très mystérieux et très beau, et je pense un peu possible aussi d'une certaine manière. Donc peut-être glisser cette petite idée comme une petite graine. Dans la tête et le cœur des personnes qui peut-être nous écouteront travailler le rêve. On est confiné dans nos logements, on est contraint de mille manières, et dans nos rêves, on va avoir mille libertés. Et essayons d'utiliser à plein cette liberté des rêves.
Merci beaucoup, Jade.
Et merci à toi.
Merci beaucoup de votre écoute. Vous pouvez soutenir Présage en partageant les épisodes et en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. N'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à Mediapart. Prenez soin de vous et à très vite.